Il faut d'abord restituer cette décision dans son contexte, c'est-à-dire que cette déclaration fait suite à la publication ou à la présentation devant la presse ou le public de la note de politique de défense. Donc, dans cette note, il est prévu une série de services militaires obligatoires qui reste une possibilité qui a été déterminée dans une loi organique sur les forces armées, donc loi portant organisation et fonctionnement des forces armées. Et dans cette loi, on parle d'une possibilité d'instaurer les services militaires obligatoires pour certains jeunes. Donc, dans la note qui a été présentée hier, on parle des jeunes finalistes qui pourraient passer par ces services militaires. Alors, quant à la faisabilité, je pense que cette note, pour moi, reste plus dans le registre d'intention parce que sa mise en œuvre risque de poser problème. Poser problème, pourquoi ? Parce que si vous voyez déjà l'étendue du territoire congolais, il faut un mécanisme assez pointueux pour pouvoir recenser ces jeunes et trouver les lieux où ces jeunes devraient passer par le service militaire. Nous connaissons aujourd'hui la situation sécuritaire du pays, la situation militaire, les conditions dans lesquelles les forces armées congolaises évoluent. Je reste assez dubitatif quant à la faisabilité effective de cette décision, d'autant plus qu'il y a beaucoup de contraintes qui risquent de peser ou d'émerger dans la mise en œuvre de cette décision, parce que cela demande d'abord une étude de faisabilité et même un projet pilote avant d'implémenter ce genre de projet qui risque d'avoir aussi d'autres effets néfastes.
D'autant plus que le président congolais avait également demandé aux jeunes de se porter volontaires pour aller aider un peu l'armée pour faire face un peu à la rébellion des M23.
Oui, c'est-à-dire que le président avait fait appel à la jeunesse pour une mobilisation pour faire face au M23. Mais je pense qu'on essaye parfois de dépasser le problème quand vous considérez, par exemple, en termes d'effectifs, les effectifs des forces armées congolaises qui sont signalés par les canaux officiels sont largement supérieurs aux effectifs, par exemple, respectifs de chaque État de l'Est. Théoriquement, l'armée congolaise a des effectifs qui tournent autour de 130-140 000 hommes. Alors que le Rwanda, par exemple, ses effectifs tournent autour de 30 000 hommes, 35 000 hommes, l'Ouganda 42 000 hommes et le Burundi maximum 30 000 hommes. Et si vous faites la sommation des effectifs de ces armées, ils n'arrivent pas à égaler les effectifs de l'armée congolaise. Donc le problème ne se pose pas. Hein.
Ce n'est pas un problème d'effectif alors pour vous?
Ce n'est pas un problème d'effectif, mais c'est un problème qualitatif. Il faut reconnaître aussi que au niveau des FRDC, donc l'armée congolaise, on signale parfois des effectifs qui sont erronés, des effectifs fictifs, pour pouvoir bénéficier de l'argent qui serait payé pour ces personnes qui sont, ou ces militaires qui sont fictifs. Quand vous prenez la rébellion du 1-23, tous les analystes, tous les experts vous disent qu'ils ne dépassent pas plus de 5 000 hommes, même s'ils sont appuyés par l'armée rwandaise dont les effectifs. Le problème est plutôt du côté qualitatif de l'armée, du côté de la réforme de l'armée, parce qu'entre-temps, la mobilisation à laquelle vous avez fait allusion, c'est 10 500, si j'ai bonne mémoire, de jeunes qui sont rassemblés actuellement à la base de Kitona, au sud du pays, qui sont en train d'être formés. Et si on fait aujourd'hui appel à des jeunes pour une formation de service militaire, mais il faut assurer la suite. La suite est que le pays est dans une conjoncture économique assez difficile et que le pouvoir d'achat des militaires est très faible. Ces jeunes qui seraient formés et après qui rentreraient en civil et qui n'auraient pas de travail ou d'emploi risquent d'être des futurs criminels. Donc aujourd'hui, même la conscription dans les armées modernes est en train d'être bannie au profit d'une armée à haute intensité où on essaie de donner plus de moyens avec plus de moyens à des militaires qui sont spécialisés, qui sont capables de mener des actions en profondeur telles que les forces spéciales. Et c'est la tendance générale qui se met en place, d'autant plus que les menaces que nous avions à l'Est, ce sont des menaces asymétriques qui ne nécessitent pas une armée pléthorique, mais plutôt des unités combattantes de qualité qui peuvent opérer en profondeur et intercepter les menaces là où elles se trouvent.
Alors, au-delà même de la question militaire, on a l'impression que les autorités congolaises ont opté pour le, disons, pour la solution militaire face aux questions, face à la question de l'insécurité dans l'Est. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres options également à côté de celles militaires?
Ben, je pense que l'option militaire reste quand même assez, devrait être prépondérante parce qu'on a essayé d'autres solutions, que ce soit diplomatique, que ce soit politique, que ce soit même les dialogues communautaires avec certains groupes armés, ça ne marche pas. Le problème est qu'il n'y a pas d'autorité de l'État. Il faudrait d'abord une solution qui permettrait à ce que l'autorité d'État s'affirme, pas nécessairement sur le plan militaire, mais pour moi, on peut constituer des forces de police du type gendarmerie qui peuvent bien faire l'affaire, parce qu'une gendarmerie, c'est une force à capacité militaire, mais qui peut opérer comme une police de proximité et qui peut aller chercher l'information et étouffer la menace au moment où cette menace commence à surgir. Donc, il y a cette possibilité-là qui est celle de peut-être renforcer les capacités de la police de proximité pour être au fait de l'information, au fait de la menace, dès que cette menace commence à éclore, pour empêcher que la situation ne puisse se générer, ne puisse dégénérer à un conflit beaucoup plus ouvert. Et il y a aussi les aspects des dialogues intercommunautaires, mais tout cela doit être accompagné aussi par une certaine volonté politique, une vision globale de la sécurité, une sécurité qui ne doit pas être nécessairement une sécurité militaire, mais aussi renforcer les services de renseignement et aussi collaborer avec les États de la région. Mais bon, il ne faut pas perdre de vue que une bonne partie des groupes armés qui écument l'Est du Congo sont quand même ravitaillés, sont quand même soutenus par les États de la région. Et les dialogues parfois montrent les limites, il faudrait peut-être aller dans cette solution. Mais bon, quand on prend cette option, il faut aussi disposer les moyens pour aller jusqu'au bout. On parle d'une loi de programmation militaire que j'ai lue, et je pense que jusque-là, on est dans les intentions, même si la loi projette de dégager environ 1,3 milliard de dollars par an, déjà pour la partie 2022, ça n'a pas été décaissé. Le budget 2022 tourne avec moins de 300 millions de dollars et cela ne permettrait pas d'appliquer ou de mettre en œuvre toute cette volonté politique manifestée dans la déclaration qui a été faite récemment dans le cadre de la politique de la défense.
D'accord. Jean-Jacques Kouondo, merci beaucoup.